Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h, Charles Matin,
Anaïs Castagna.
Et bonjour à tous, nous sommes le mardi 2 août, vous écoutez Charles Matin, je suis ravie d'être avec vous pour cette nouvelle matinée d'infos. J'espère que la nuit a été bonne, que vous avez réussi à dormir malgré la chaleur. Vous nous dites au 32-16 et on fera un point complet sur la météo avec toi Anthony. Bonjour Anthony,
bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Comment ça va ce matin ?
Bah écoutez, plutôt bien. J'ai quand même bien dormi grâce au ventilateur, évidemment, qui a soufflé toute la nuit. Donc ça va. Plutôt une bonne nuit.
Et bah vous nous dites, vous, au 32-16, on vous attend. Je vous donne le programme de la matinée. Ces derniers jours, vous avez été nombreux à nous dire bah moi, la solution pour me rafraîchir, c'est d'aller piquer une tête dans ma piscine. Et on a de plus en plus en France, plus de 3 millions. Ça pousse comme des champignons dans le sud, mais aussi dans le nord. On vous aurait dit que c'était du grand n'importe quoi il y a encore 10 ans. Mais est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Certains parlent d'aberration écologique parce que ça augmente évidemment notre consommation d'eau alors qu'on est en période de sécheresse. Est-ce que c'est vraiment responsable de vouloir sa piscine à soi ? Est-ce qu'il faut les interdire ? Vous réagissez au 32-16 sur l'application Direct Studio et sur la page Facebook Les Matins d'RMC. Au sommaire également ce matin, les abandons d'animaux se multiplient. En ce moment, la SPA tire la sonnette d'alarme. Elle affirme que les refuges sont saturés. Dans son viseur, tous ces gens qui se sont achetés un chien ou un chat pendant la crise sanitaire et qui s'en débarrassent au moment de partir en vacances. J'attends vos réactions. On verra aussi qu'il y a eu très peu d'adoptions depuis le début de l'année à cause de l'inflation. Notamment, certains Français renoncent à adopter un animal faute de moyens. C'est peut-être votre cas. J'attends vos témoignages là aussi au 32-16. Et puis, il y aura aussi tous nos rendez-vous ce matin. Les insolites de Quentin à 5h20. Il va nous parler d'une bande de voleurs qui s'attaque aux fromages. La story sport après le journal de 5h30. On va parler de la crise à l'OM. Alors que le championnat n'a même pas commencé, le nouvel entraîneur tout juste arrivé est déjà menacé. Et puis Angèle viendra nous parler de la carrière de Michel Berger 30 ans après son décès. On va aussi jouer à la voix du jour juste après le journal de Marguerite. Il faudra être très attentif. Avant ça, donc, la météo avec toi, Anthony. Il a fait très chaud hier dans le sud. Aujourd'hui, tout le monde sera concerné par les fortes températures.
Exactement, mais c'est encore dans le sud-est qu'il fera le plus chaud, là où 5 départements sont en vigilance orange canicule, du Roussillon à la basse vallée du Rhône. Dans ces 5 départements, on sera souvent entre 37 et 39 degrés dans l'après-midi, 39 à Nîmes. Mais ailleurs, il fera chaud aussi, 34 à Lyon, 33 à Nantes, 32 à Paris et Strasbourg, 29 à Lille et un petit 25 degrés pour Brest. Cette journée va se passer sous le soleil, excepté quelques grisailles côtières ce matin près de la Manche et quelques averses sur les reliefs du sud dans l'après-midi.
Merci Anthony.
Mardi 2 août,
l'info sur RMC.
Il est 5h, vous écoutez RMC, bon réveil à tous. C'est l'heure de retrouver Marguerite Dumont pour le journal. Bonjour Marguerite.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Le chef d'Al-Qaïda abattu. Les États-Unis avaient mis sa tête à prix. Le terroriste était considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre. Gagner plus en monétisant ses RTT. Les sénateurs ont voté la mesure cette nuit. Pour la gauche, c'est la fin des 35 heures. Vous vivez le troisième épisode de canicule de l'été. La chaleur s'étend au nord de la France aujourd'hui. Des températures jusqu'à 40 degrés.
À la une ce matin, le chef d'Al-Qaïda est donc mort, annonce du président américain cette nuit.
Ayman al-Zawahiri était l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre. 20 ans après, les États-Unis l'ont tué à Kaboul en Afghanistan. C'était ce week-end. L'Égyptien était l'un des terroristes les plus recherchés du monde, Garance Munoz.
Introuvable depuis plus de 10 ans, Ayman al-Zawahiri a été tué dans une frappe américaine à Kaboul. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'en est félicité dans une allocution cette nuit depuis la Maison-Blanche.
Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus. Aucun membre de sa famille n'a été blessé et il n'y a eu aucune victime civile.
Depuis la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, al-Zawahiri était le chef d'Al-Qaïda, l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis. Avec sa mort, Joe Biden veut envoyer un message à l'ensemble des ennemis de son pays.
Peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous constituez une menace vis-à-vis de notre population, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront.
Au-delà de la lutte contre le terrorisme, l'opération qui a mené au décès d'al-Zawahiri est aussi une victoire politique pour Joe Biden. C'est ce qu'explique François Durper, historien spécialiste des États-Unis.
Le visage de al-Zawahiri, il était connu de tous les Américains. Pour Joe Biden, c'est un coup politique important. C'est une manière de dire qu'il préserve la sécurité du pays et des Américains.
Pour Joe Biden, cette frappe va permettre aux familles des victimes du 11 septembre de tourner la page de l'attentat le plus meurtrier au monde.
En Ukraine, la prudence de Volodymyr Zelensky après la reprise des exportations de céréales. Le président ukrainien a estimé hier qu'il était trop tôt pour se réjouir. Attendons de voir comment l'accord fonctionnera, dit-il. Hier, le départ d'un cargo chargé de blé depuis le port d'Odessa a été salué par la communauté internationale. Dans ce contexte, un nouvel échange téléphonique entre Emmanuel Macron et le président ukrainien. Ils ne s'étaient pas parlé depuis le 16 juin dernier, Cyprien Pézeril.
Une discussion téléphonique durant laquelle le président français a salué la reprise des exportations de céréales avec pour la première fois depuis le début de la guerre le départ d'un cargo rempli de maïs. Emmanuel Macron a d'ailleurs assuré à Volodymyr Zelensky que les efforts européens allaient se poursuivre en ce sens avec des couloirs de navigation sécurisés en mer pour les bateaux. Et ce, même si c'est surtout l'ONU et la Turquie qui sont à l'origine de cet accord sur la reprise des exportations. 90 minutes d'échange pendant lesquelles il a aussi dénoncé les crimes de guerre qui, selon lui, se multiplient et qui ne resteront pas impunis, c'est ce qu'il a assuré au président ukrainien. Dans un communiqué, l'Élysée rappelle d'ailleurs que la France a déjà envoyé une équipe d'experts médico-légaux et fait don d'un laboratoire mobile d'analyse ADN, ce qui va permettre de faciliter l'identification des corps après les massacres, afin, dit la présidence française, de faire en sorte que les crimes ne restent pas impunis.
RMC 5h03, c'est le retour du travailler plus pour gagner plus au Sénat.
Les sénateurs ont voté un amendement permettant aux entreprises de racheter aux salariés leurs jours de RTT non pris. La Chambre haute débat en ce moment des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Cette mesure, le gouvernement était contre et la gauche aussi. Pour Thomas Dossou, sénateur écologiste du Rhône, on enterre tout simplement les 35 heures.
LR ce soir, en plein mois d'août, au Sénat, a décidé que ça serait pérenne. Ça serait, on a enlevé cette limite de temps. Donc clairement, on a dit maintenant, le salarié et le patron négocient directement s'il monétise ou s'il prend des congés sur ses RTT. En passant au-dessus des accords de branche, en passant au-dessus des accords d'entreprise. Donc on est en train d'enterrer petit à petit les 35 heures. Là, ce qui est caricatural, c'est le débat qu'on a eu. On aurait aimé un vrai débat, d'abord avec les partenaires sociaux. Ensuite, on prend le temps de débat du partage du temps de travail s'il faut. Mais pas comme ça, à 1h du matin, au Sénat, en pleine nuit au mois d'août.
Par ailleurs, les sénateurs ont aussi voté la défiscalisation des heures supplémentaires et rejeté la taxe sur les super-profits, cette fois-ci avec le soutien du gouvernement. Pas question de super-profits pour Camailleux, l'enseigne d'habillement sombre. 2 ans après son rachat, l'entreprise est de nouveau en cessation de paiement. Les salariés craignent la classe sociale. Camailleux croule sous les dettes, Florian Chevalet.
C'est en réalité une décision de justice qui a accéléré la chute de Camailleux. La Cour de cassation oblige l'enseigne de prêt-à-porter à s'acquitter des loyers non payés pendant la crise du Covid, au moment où les commerces jugés non essentiels étaient fermés. Selon un syndicat du groupe, cela représenterait 50 à 60 millions d'euros de dettes. Pour la CGT, pessimiste, casse sociale et licenciements sont inévitables. À la CFDT, on se veut plus rassurant, le groupe reste solide. Il porte d'autres grandes marques comme Gosport ou la Grande Récré par exemple. Mais la menace de fermeture de magasins est réelle, même si la direction rappelle sa volonté de préserver l'emploi, grâce notamment aux synergies que le groupe peut offrir. L'enseigne nordiste, dont le siège se situe à Roubaix, emploie 2571 salariés dans plus de 500 magasins.
Florian Chevalet pour RMC. Pas de répit sur le front des incendies. 450 hectares de maquis ont brûlé en Haute-Corse, à hauteur de Santo Pietro di Tenda. Le feu n'était pas fixé hier soir, mais les deux lisières sont en nette régression selon les pompiers. La difficulté, la zone est inaccessible aux équipes terrestres. Tous les moyens aériens sont mobilisés. Et la chaleur, évidemment, n'arrange rien. On se réveille et il fait déjà chaud. La troisième canicule de l'été s'installe sur la France. Dans le sud, la nuit a été dure. 5 départements sont toujours en vigilance orange. Le mercure monte maintenant dans le nord jusqu'à 40 degrés localement. Le pic est attendu demain et jeudi. La bonne nouvelle, il y en a quand même, c'est que cet épisode sera moins intense et moins long que le précédent. Pour se rafraîchir, rien de mieux qu'un petit bain. On est d'accord, on vous emmène dans les calanques marseillaises. L'eau est bonne, pas trop chaude et surtout vous allez être tranquille. Depuis le 25 juin, l'accès à la calanque de Sugiton se fait sur réservation. La nature est préservée et vous avez la paix. Reportage de Clémence Fournival.
Elisa est marseillaise, elle était contre la réservation obligatoire, mais cette journée à Sugiton l'a fait changer d'avis.
Ah, c'était très agréable et on s'est dit que finalement l'été on n'y venait plus parce qu'on s'est dit qu'il y aurait toujours trop de monde, alors que là c'était vivable.
Raphaël vient 2-3 fois par an, lui aussi est conquis par le dispositif.
Ça donne envie de revenir, de la redécouvrir autrement, en plus avec moins de monde, on en profite vraiment, vraiment mieux.
Mais pour profiter de ce havre de paix retrouvé, encore faut-il obtenir un pass. Pour Aurore, venue en famille, ça n'a pas été si simple.
C'est pas forcément évident parce qu'au départ, les places sont assez vite prises. À chaque fois, on a essayé de réserver les 3 jours avant. Et puis voilà, pour aujourd'hui, ça a fonctionné.
Depuis le début du dispositif, seulement une poignée de personnes ont été verbalisées, comme les explique Didier Réau, président du parc national des Calanques.
Sensibiliser d'abord, réprimander parfois, et puis in fine, s'il y a récidive ou s'il y a une mauvaise volonté, que ça soit sanctionné.
Face à de nombreux touristes étrangers en manque d'informations, des pancartes en anglais ont été installées à l'entrée du parc.
Un mot de sport pour terminer votre journal. La Ligue des Champions, Monaco en quête d'une qualification pour la phase de poule. Plusieurs étapes à franchir, disputer les barrages et affronter le PSV Eindhoven ce soir pour le troisième tour préliminaire. Coup d'envoi à 20h.
Merci beaucoup Marguerite. On te retrouve dans moins d'une heure avec Sébastien Krebs et toute l'équipe. C'est l'heure de jouer sur RMC.
RMC,
la voix du jour.
La voix du jour, c'est cette voix qui vous permet de remporter de jolis cadeaux. Je vous rappelle le principe, je vais vous passer un extrait d'une personnalité. Si vous reconnaissez, vous faites le 32-16, écoutez.
J'ai rencontré des habitants, des commerçants de ce quartier. Comme ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas vu monsieur le maire de Lyon depuis 2 ans, je leur propose qu'en septembre, je puisse revenir voir comment on peut travailler ensemble.
Alors, je vais vous donner quand même quelques indices. L'homme que vous venez d'entendre était à Lyon ce week-end à la rencontre des habitants et des commerçants du quartier de la Guillotière, une dizaine de jours après l'agression de policiers. Il a déploré l'absence du maire de Lyon et il vient de lui écrire pour lui demander d'améliorer la sécurité dans sa ville. Je ne vous en dis pas plus. Si vous l'avez reconnu, vous appelez le 3216 et vous pourrez peut-être repartir avec un sac de plage et une crème protectrice de la marque Kirines. Bonne chance à vous. Dans un instant sur RMC, on va parler de la passion des Français pour les piscines privées. Il y en a de plus en plus. On est champion d'Europe. C'est vrai que c'est tentant en pleine vague de chaleur. Mais est-ce que c'est responsable de vouloir sa propre piscine alors qu'on est en période de sécheresse et de restriction d'eau? Reportage à suivre et je vous attends au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Bienvenue sur RMC. Bon réveil à tous. Faut-il interdire les piscines privées?
C'est la question du jour sur RMC.
En période de canicule, on en vit forcément celles et ceux qui ont la chance d'avoir une piscine dans leur jardin pour pouvoir piquer une tête de temps en temps. Et il y en a de plus en plus. Écoutez bien ce chiffre. La France compte aujourd'hui plus de 3,2 millions de piscines privées enterrées ou hors sol. La hausse des températures et la crise sanitaire ont joué, mais pas seulement. Ça fait un moment que le marché explose, dû notamment à la baisse des prix. Résultat, on en voit fleurir un petit peu partout, dans le sud et dans le nord aussi. Mais alors que la France est durement touchée par la sécheresse et les restrictions d'eau, question ce matin sur RMC. Est-ce que c'est réellement responsable d'un point de vue écologique? Certains disent que c'est une aberration, qu'il faut en finir avec ça. Vous nous dites ce que vous en pensez. Je vous attends au 32-16 ce matin. Avant ce reportage, à Feucherolles, en région parisienne, avec Martin Cadoret. Écoutez.
Une grue vient de déposer un beau cadeau dans le jardin de Pierre, une piscine hors sol, longue de 5 mètres.
C'est un beau bébé déballé, oui.
Ses propres parents en avaient une de piscine.
On a de merveilleux souvenirs de famille et on s'était dit que quand ce serait notre tour de prendre notre retraite, on aimerait faire la même chose.
Pour nager, se rafraîchir, mais au moment de commander, Pierre a été très surpris.
Les délais d'attente dans le 78 allaient de 1 à 2 ans. La demande a absolument explosé. En fait, si vous prenez la commune, vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de piscines. Et on en voit construire de plus en plus. Notre voisin est en train d'en construire une là.
L'installateur Jérôme Agisson se frotte les mains.
Ça fonctionne très bien en ce moment depuis le Covid. On peut espérer une augmentation entre 15 et 20% de chiffre d'affaires sur 2022.
Le réchauffement climatique lui offre finalement de belles opportunités en région parisienne.
Les gens qui étaient réfractaires sur une piscine parce qu'on est dans le nord, on va pas l'utiliser longtemps. On s'aperçoit que dans le nord, il fait beau aussi, on a des fortes températures. Les gens sont conscients que les températures vont augmenter, elles augmentent, c'est significatif. Et ça se voit par les appels, par les devis que l'on fait. On l'aura de plus en plus, effectivement. Donc il faut qu'on se prépare à avoir des stocks en début de saison.
Et chaque piscine vendue, c'est plus d'eau consommée, plus 15% par an pour une famille de 4 personnes. Pierre Roche est spécialiste de l'eau à l'université Aix-Marseille.
À l'heure actuelle, avec l'impact du changement climatique, tous les ajouts de consommation durant les périodes critiques pose des problèmes. La question est de savoir à quelle proportion. Et je vous dis globalement, l'arrosage des pelouses a souvent un impact plus important que les piscines. Il faut vraiment toujours avoir pour chaque territoire une vision globale. Quand on se trouve en bordure d'une plage, d'une mer, est-ce qu'on a besoin d'avoir une piscine absolument individuelle?
Consommation d'eau, mais aussi d'électricité. La piscine de Pierre dans les Yvelines alourdira sa facture d'environ 45 euros par mois.
Alors, merci Fabien. pour cette bonne programmation. Je peux pas, j'ai piscine. Vous nous dites ce que vous en pensez. Surtout, venez témoigner. Dites-nous combien ça vous coûte. Est-ce que c'est vraiment indispensable ou non? Je vous attends au 32-16 sur l'appli Direct Studio et sur la page Facebook Les Matins RMC. Tiens, on a Rémi qui nous appelle au 32-16. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Bonjour Rémi, vous nous appelez de Grenoble dans l'Isère. Vous êtes agent d'entretien, je crois, c'est ça?
C'est ça.
Rémi, vous avez une piscine, vous, ou pas?
Non.
Pas de piscine, parce que...
Bah parce que je vis dans 40 mètres carrés et que si je veux mettre une piscine...
Ah bah forcément, vous vivez en appartement, donc c'est compliqué.
Mais j'en aurais pas si j'avais une maison.
Alors expliquez-nous. Pourquoi?
Alors honnêtement, moi, mes concitoyens me font halluciner parce que tous les ans, on se rend compte avec effroi, panique justifiée d'ailleurs, qu'on atteint les 40 degrés et que plus ça va, plus on va les dépasser. Mais ça ne dérange pas les gens de saturer les piscinistes de commandes pour chacun avoir son petit, sa petite piscine à soi. Enfin, l'égoïsme est incroyable. Je veux dire qu'on augmente la consommation d'eau. On pollue, on s'en fout, c'est incroyable.
Ah carrément, vous trouvez que c'est de l'égoïsme?
Mais c'est quoi d'autre? Mm. Avoir une piscine dans son jardin pour soi, pour sa famille, pour se faire des souvenirs, parce qu'on travaille, qu'on a bien mérité, mais c'est moi, je.
On va rappeler que c'est 15% de consommation en plus par an pour une famille de 4 personnes, une piscine.
Mais c'est énorme. Imaginez si toutes les familles de 4 personnes qui ont une maison et qui ont la place de faire une piscine en avaient une. Mais là, les feux de forêt, il vaut mieux les laisser cramer. Hein.
C'est énorme, et certains vous diront, et on l'entendra tout à l'heure dans le reportage à 5h10, on l'a entendu, qu'en arrosant, c'est parfois pire, en fait.
Non, mais...
Quand on a un jardin.
Ok, alors à partir du moment où il y a une dépense qui existe d'eau qui est pire, on peut faire ça, c'est pas grave.
Ouais.
Non, mais enfin, faut qu'on arrête de réfléchir comme ça, c'est pas possible. Je veux dire... si moi je peux gaspiller l'eau dans ma douche ou dans mon évier ou dans mon lave-vaisselle ou dans ce que vous voulez parce que à côté il y a quelqu'un qui arrose sa pelouse et que ça dépense plus, eh ben écoutez, allons-y tous comme ça. L'année prochaine on n'aura pas d'eau du tout. Et le jour où on va avoir deux fois plus de feux de forêt, parce que je suis pas voyant mais je vous le dis, ça va arriver. Hein, c'est pas moi, c'est le GIEC.
On vous sent inquiet.
Ah non, mais c'est pas une question d'inquiétude parce que moi, si vous voulez, je me fais aucune illusion. Je vois mes concitoyens agir. Ils ont saturé les ventes de piscines une année. De canicule. Mm. Je veux dire, les gens ne font même pas le lien. Ils s'en foutent. Là, c'est même plus de la. C'est pas de l'inquiétude, c'est désespérant. Je veux dire, c'est désespérant. Les gens ne pensent qu'à leur tronche. Que ce soit les gens qui travaillent, qui s'arrachent pour pouvoir se payer leur piscine. Et honnêtement, c'est-à-dire, c'est un rêve qu'on nous met dans la tête depuis tellement longtemps que c'est difficile de s'en défaire à la limite. Mais que ce soit les gens qui sont, entre guillemets, des nantis, qui ont largement les moyens de se la payer, et les gens qui travaillent d'arrache-pied pour s'acheter la petite maison, la petite piscine pour la retraite, pour les petits-enfants, etc., on pense qu'à soi.
C'est intéressant ce que vous racontez, parce qu'aujourd'hui, c'est plus seulement le privilège des riches, hein. C'est aussi quelque chose que la classe moyenne peut se permettre de s'offrir. Oui. 47% des détenteurs de piscine gagnent moins de 3000 euros par mois.
Oui, oui. Eh bien, écoutez... C'est les gens qui souffriront le plus et le plus vite des effets du réchauffement climatique, les pauvres. Mmh. Et qu'ils achètent encore plus de piscines.
Ouais.
Je veux dire, non, mais ça, c'est, moi, je suis désolé, mais ça me fait halluciner. Les gens s'en foutent complètement. Mais moi, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir ma piscine. J'ai travaillé, etc. Ben, écoutez, ok. Et puis, au lieu de faire des retenues d'eau et des réservoirs pour l'eau de pluie, etc., pour quand il y a le feu à côté de chez vous, on puisse éteindre. Et après, on les voit passer au journal. Oh là là, ma maison, elle a brûlé, etc. Ben, vous avez une maison au milieu du maquis, vous avez une piscine. Une fois que les pompiers, ils ont pompé la piscine pour éteindre, il n'y a plus rien. Hein.
Rémi, vous y allez jamais, vous, à la piscine?
Moi? Non. Moi, quand je veux aller me baigner, je prends mes fesses et je vais à la mer.
Vous allez à la mer? Vous mettez combien de temps pour aller à la mer?
Oh, ben, de Grenoble, je vous dis que j'y vais pas souvent.
Ouais.
Mais il y a des lacs.
Ouais, mais c'est ça, ouais, vous êtes pas très loin du lac d'Annecy, notamment.
Par exemple, oui, mais il y en a plein d'autres. Non, mais en France, il faut arrêter, c'est pas le Sahel, hein. Je veux dire, si on veut aller à la mer, en général, il y a une grande partie de la France qui est pas loin de la mer, quand même.
Oui, je vais vous dire, je vis à Paris, si je veux aller à la mer, je mets au moins 2 heures, c'est pas si simple que
oui,
ça non plus.
Voilà,
payer le billet de train, c'est aussi une organisation, c'est pas si simple.
Mais bon, par exemple, vous êtes pas à la mer, vous êtes loin des lacs, vous êtes loin de tout, et ben, on peut faire des choses partagées. On peut faire des piscines qui soit pour plus que juste ma petite famille, mon petit cercle, etc. Enfin, je veux dire, il faut arrêter l'égoïsme. Bah,
D'abord, il y a les piscines municipales, c'est vrai. D'abord, il y a les piscines municipales.
Oui,
et puis,
oui.
C'est intéressant aussi ce que vous dites, parce que j'ai vu que la location de piscines privées se faisait de plus en plus. C'est en plein boom. Plusieurs applications ont été lancées ces dernières années pour permettre à des particuliers d'aller chez des propriétaires de piscines, moyennant une petite somme d'argent à la journée. Il y a notamment Suimi, je crois, ou louer une piscine. D'ailleurs, au mois de juillet, l'application Suimi a doublé le nombre de réservations par rapport à 2021. Donc, c'est vrai qu'il y a des solutions aussi.
Ben oui, mais ça, encore, on parle des anciennes piscines qui sont déjà là et qu'on peut louer pour essayer d'en faire profiter plus de gens.
Mais arrêtons là.
Mais ouais, il faut mettre le haut là, parce que je veux dire, au lieu de fabriquer une piscine, je veux dire, il y a des lotissements où chacun a sa petite piscine, c'est pas nécessaire. Prévoyez un endroit pour que tout le lotissement ait une piscine pour tout le monde, avec une taille raisonnable pour que tout le monde puisse en profiter, des structures autour, etc. Et tout le monde participe. Essayez de faire des choses collectivement, je veux dire.
Mais ça s'appelle des piscines municipales, j'ai envie de dire, Rémi. C'est à la municipalité de mettre les moyens.
Oui, bien sûr. Non, mais
merci.
Il faut arrêter de réfléchir tout seul, quoi.
Merci, Rémi, en tout cas, d'avoir réagi ce matin sur RMC, d'avoir poussé ce coup de gueule. Je vous invite à réagir. Je sais que ça vous fait réagir. Certains bondissent en entendant ce débat. Vous réagissez au 32-16 et sur l'appli Direct Studio. On vous attend évidemment ce matin. C'est l'heure d'RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous.
Comme tous les matins cet été, on reprend des nouvelles de tous ceux qu'on a aidés et accompagnés dans Apolline Matin cette année. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Ce matin, tu nous reparles de François et de Bernadette qui vivent à côté de Gien dans le Loiret. Ils nous avaient contactés en grande détresse car ils recevaient toutes les amendes du nouveau propriétaire de leur ancienne voiture.
Oui, François et Bernadette décident en début d'année de se débarrasser de leur très vieille voiture. Ils la vendent quelques centaines d'euros sur le bon coin. Sauf que, pressés par l'acheteur, ils oublient de lui faire remplir le certificat de cession du véhicule. Le piège se referme, la voiture est toujours au nom du couple et ça, l'acheteur le sait. Quasiment tous les jours, il force son passage au péage d'autoroute et toutes les contraventions se retrouvent dans la boîte aux lettres de François et Bernadette. Quand ils nous contactent en mars, ils en ont alors pour 1600 euros d'amende.
C'est vrai qu'on a fait une bêtise, ça c'est d'accord. Mais j'ai appelé la police des autoroutes, j'ai appelé les gendarmeries, j'ai tout essayé. Et il n'y a personne qui peut m'aider en fait. Je ne sais pas comment m'en sortir. 80 en l'espace de 3 jours, ils peuvent continuer longtemps. Et si je ne paye pas, ça va se cumuler. Je vais faire comment ? Je peux pas payer tout ça.
On entend la détresse, l'immense détresse de Bernadette. Comment ça va aujourd'hui ? Est-ce que c'est réglé ?
Eh bien oui, à l'époque, on a appelé un avocat, maître Mathieu Lesage, qui a conseillé à Bernadette et François de contester toutes les contraventions. Et surtout, on a contacté l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Spécifiques, pour que le nom de Bernadette ne soit plus associé à la carte grise de la voiture, ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, pas de nouvelle amende à payer. Toutes celles que le couple avait reçues ont été contestées. François et Bernadette sont apaisés.
Personnellement, ça va beaucoup mieux. Parce que franchement, j'ai très mal vécu ce moment-là. J'en ai pleuré, j'en ai fait des... J'étais pas bien du tout dans ma peau, et puis même pas dans ma tête non plus. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux, je suis moins fâchée, je suis moins stressée, moins en colère. Il y a un poids qui est sorti, et c'est un soulagement. C'est grâce à votre aide, parce que sinon, on y serait encore, vraiment. Merci beaucoup.
J'ai acheté une voiture, une 206, les papiers ont été faits tout de suite, en règle. Bon, c'était avec un collègue de travail. Les papiers, ils sont faits, tout est carré, on ne nous y prendra plus.
Ils ont même pu s'offrir quelques jours de vacances. En revanche, le nouveau propriétaire de la voiture continue, lui, de faire des siennes. Il force encore les passages au péage et maintenant, il siphonne le carburant dans les stations-service. C'est la gendarmerie qui a prévenu François et Bernadette qui ont porté plainte pour usurpation de plaques d'immatriculation, étape indispensable pour retrouver le coupable.
Bon, l'essentiel pour François et Bernadette, c'est qu'ils ne risquent rien. On se réjouit de voir que ça a pu rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup, Johanna. Si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Vous restez avec nous dans un instant, les insolites de Quentin. Et puis, on va évidemment continuer à débattre de la multiplication des piscines privées en France. Bien pratique en période de canicule. Vous êtes très, très nombreux à me le dire sur Direct Studio. On va y revenir, mais certains parlent en effet d'aberration écologique. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il faut les interdire ? Vous réagissez au 32-16 et sur Direct Studio. À tout de suite. tête sur RMC. Il est 5h23. Ravi de vous retrouver. À la une ce matin, les États-Unis affirment avoir tué le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, dans une attaque de drone en Afghanistan. Joe Biden s'est adressé à la nation au cours d'une allocution télévisée. Justice a été rendue après les attentats du 11 septembre, a-t-il lancé. Le Sénat a pérennisé hier le relèvement à 7 500 € du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires avec le soutien du gouvernement. Il a aussi adopté la pérennisation de la possibilité pour les entreprises de racheter aux salariés les jours de RTT. Et puis, la vague de chaleur s'installe en France, tout le pays touché aujourd'hui. Une canicule qui a des répercussions sur le tourisme et les commerçants, comme en témoigne Camille, vendeuse de glace à Nîmes.
Les touristes viennent un petit peu pour visiter les monuments, mais sinon, c'est très, très calme. On a bien baissé le chiffre d'affaires. Je pense que c'est bien moins de 30%, je pense. C'est encore plus important que le Covid, beaucoup plus.
Anthony Kazmarek, quelle température aujourd'hui ?
Eh bien, on sera quasiment partout au sud, 30 degrés, sauf près de la Manche. Comptez 30 à 33 degrés sur une bonne moitié nord du pays, 33 à 37 dans le sud et encore des pointes à 37 ou 39 degrés dans les 5 départements du sud-est en vigilance orange canicule, entre le Roussillon et la basse vallée du Rhône.
Merci beaucoup. C'est l'heure des insolites de Quentin.
Les insolites de Quentin.
Quentin, aujourd'hui tu vas nous parler d'un vol un petit peu particulier, ça s'est passé dans une fromagerie.
Après les banques et les bijouteries, voici un nouveau venu dans la famille des cambriolages, celui des fromageries. Ça s'est passé la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, à la ferme du Breuil, près de Besançon, dans le Doubs. Les propriétaires se sont fait réveiller par l'alarme anti-intrusion de leur boutique et le temps d'arriver sur place, le mal était déjà fait, les cambrioleurs n'étaient plus là.
Ils sont pas partis les mains vides.
200 kilos de fromage,
ah ouais,
une trentaine.
Même. Ils se sont fait plaisir.
Des meules non, de raclette et de comté, c'est que du bon. C'est ce qu'ils sont venus chercher et ils n'ont rien pris d'autre, pas même un peu de monnaie. Enfin, le fromage en est une, j'imagine, puisque le préjudice est estimé à environ 2-3
euros.
Maintenant, que vont-ils faire de tout ce fromage ? Est-ce qu'il y a un marché noir dans le Doubs ? L'avenir nous le dira. On saura alors si l'argent a bel et bien une odeur.
Une autre histoire dont tu voulais nous parler ce matin. Arrivé en Australie, un voyageur a dû payer une amende très salée.
C'est un petit creux qui coûte cher à ce touriste. Une fois arrivé en Australie, il a été repéré par le chien des douanes et il a eu une mauvaise surprise. Payer une amende de 2 000 $ parce qu'il avait dans son sac non pas de la drogue ni des armes, mais 2 muffins et 1 croissant au jambon.
Ça rigole pas. Hein. Pourquoi il a eu une amende ?
Alors, c'est pas les muffins le problème. Le fautif, c'est le croissant au jambon. Depuis 1988 et la mise en place de la loi de protection de la forêt et de la faune, l'Australie ne rigole pas avec l'importation de maladies ou de parasites. Pas de problème pour ramener des gâteaux s'ils sont cuits, mais tout ce qui est produit cru, laitier, viande, graines, noix ou encore fruits et légumes frais, c'est tout simplement interdit. Même les animaux de compagnie doivent rester en quarantaine en arrivant sur le continent.
Mais attends, ça s'était déjà arrivé à des stars, non ? Je me rappelle.
Oui, alors Johnny Depp et Amber Heard en 2015, le couple a eu des problèmes avec le ministre de la Justice après avoir ramené leurs 2 chiens illégalement sur le territoire et sans passer par la quarantaine obligée. Ils avaient dû présenter des excuses publiques et payer une amende de 1 000 $ australiens, un peu moins de 700 €. Ça reste moins cher que pour le croissant au jambon,
ouais.
Mais ils ont été jugés quand même.
Merci beaucoup, Quentin. On te retrouve tout de suite au standard.
Et merci. C'est ça, je vous attends.
Mais évidemment. Tiens, Philippe nous appelle parce qu'il pense avoir reconnu la voix du jour. Bonjour Philippe, vous nous appelez de Haute-Loire. Où exactement ?
De Monissol-sur-Loire.
Monissol-sur-Loire. Vous pensez avoir reconnu la voix du jour. Vous savez ce qu'on va faire, on va la réécouter. J'aurai votre réponse juste après.
J'ai rencontré des habitants, des commerçants de ce quartier. Comme ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas vu Monsieur le maire de Lyon depuis 2 ans, je leur propose qu'en septembre, je puisse revenir voir comment on peut travailler ensemble.
Alors, Philippe.
C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
C'est bien vu. Effectivement, il était en déplacement à Lyon ce week-end après l'agression de policiers à la Guillotière.
Oui.
Et il vient d'écrire au maire de Lyon, Grégory Doucet, pour lui demander d'améliorer la sécurité dans sa ville. Il lui demande d'agir sans dogmatisme. Bravo. Je vous dis quand même ce que vous avez gagné. Vous avez gagné un sac de plage et une crème de la marque Kirines. Ça va, tout se passe bien de votre côté, Philippe ?
Impeccable.
Il fait pas trop chaud du côté de chez vous ?
C'est un petit peu
la
quand même.
La nuit n'a pas été trop difficile, si ?
Un petit peu, c'est pour ça que je suis debout de bonne heure.
Ah oui, c'est pour ça carrément, vous n'avez pas réussi à dormir. Mais vous voyez, bon, on va retenir le côté positif, ça vous a permis de gagner un joli cadeau.
Et de vous avoir.
Bravo à vous Philippe, et je suis ravie de vous avoir ce matin sur RMC. À
Moi
très
aussi.
Vite. À très vite.
Merci, merci beaucoup.
À très bientôt. Il est 5h28, vous écoutez RMC dans un instant, la météo d'Anthony Kaczmarek et le journal de Stéphane Genest. Il est 5h30, vous écoutez RMC, c'est l'heure du journal de Stéphane Genest. Donc, bonjour Stéphane.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Et la une, ça n'en finit pas. La canicule s'est installée de nouveau sur toute la France. D'ici demain, pratiquement 80% du territoire sera concerné par ces fortes chaleurs. Et en période estivale, les commerçants ne sont pas à la fête puisque les clients potentiels ne sortent plus de chez eux. À l'international, les États-Unis annoncent avoir tué le chef d'Al-Qaïda. Et puis football, reprise des qualifications pour la Ligue des Champions ce soir. L'AS Monaco reçoit les Néerlandais du PSV Eindhoven.
Il va encore faire très chaud aujourd'hui, Anthony. Tu nous le disais à l'instant, jusqu'à 39 degrés attendus à Nîmes cet après-midi.
Et cette vague de chaleur va s'étendre jusqu'à demain. Pratiquement tout le pays sera concerné. 5 départements sont toujours d'ailleurs en vigilance orange, canicule, l'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Mais avec cette canicule, les badauds et les touristes préfèrent rester au frais. Ils boudent les commerces, comme à Nîmes, où la chaleur fait tout simplement fuir les clients.
39 degrés en plein après-midi, près du jardin de la Fontaine, d'habitude le plus fréquenté de la ville. La petite terrasse du glacier Dolcezza reste désespérément vide. Luna, marchande de glace.
Il fait tellement chaud que les gens ne viennent pas se promener au jardin. Là, par exemple, ça fait bien 2 heures qu'il n'y a personne. Quoi.
Même constat à l'entrée du jardin où se trouve le stand de glace de Camille. Pour elle, la situation est pire que pendant la pandémie.
Trop chaud, les touristes viennent un petit peu pour visiter les monuments, mais sinon, c'est très très calme. On a bien baissé le chiffre d'affaires, je pense que c'est bien moins de 30%, je pense. C'est encore plus important que le Covid, beaucoup plus.
Un peu plus loin, le manège de Roger Berthier est lui aussi déserté. Pour s'adapter, il a décidé d'ouvrir 2 heures plus tard que d'habitude, mais rien n'y fait. Depuis début juillet, il a perdu 70% de son chiffre d'affaires.
Habituellement, le soir, on voit un peu de monde sur les pelouses revenir. De temps en temps, ils vont faire un petit tour de manège aux enfants ou autre. Et là, même le soir, le jardin est désertique. Si on prend vraiment que les frais pour le manège et déclaration, je suis limite à perte.
Pour compenser ses pertes, Roger mise tout sur le mois d'août en espérant davantage de fraîcheur.
Le reportage d'Estelle Henry anime des fortes chaleurs accompagnées d'une sécheresse. Pour preuve, juillet 2022 devient le mois de juillet le plus sec depuis le début des mesures météorologiques. Le cumul des précipitations agrégées sur les 30 derniers jours est de 9,7 mm, pratiquement 1 cm depuis donc en un mois.
À 5h32, la nuit a donc été agitée au Sénat.
Les sénateurs qui continuent les débats autour du projet de loi finances rectificative pour 2022. Ils ont refusé la taxation des super-profits. Ils ont acté la suppression de la redevance. En revanche, autre texte adopté, celui qui permet aux entreprises de racheter aux salariés les jours de réduction du temps de travail, les fameux RTT. Et cela contre l'avis du gouvernement et l'intervient.
Même après 2023, les entreprises pourront racheter aux salariés les jours de RTT qu'ils ne prennent pas. Alors que les sénateurs de droite y voient un gain de pouvoir d'achat et une valorisation du travail, ceux de gauche redoutent que les employeurs forcent la main aux salariés pour monétiser leur RTT et travailler plus. Le gouvernement aurait préféré que la mesure reste temporaire pour estimer le recours au dispositif, a dit le ministre Gabriel Attal face aux sénateurs. Mais c'est surtout l'opposition de gauche qui s'est montrée très véhémente lorsque certains, comme le socialiste David Assouline, dénoncent un coup de force. Pour d'autres élus, cette mesure sonne carrément l'enterrement des 35 heures. Un sénateur écologiste fustige un vote de nuit, en plein mois d'août, à l'abri des débats publics, sans consultation avec les partenaires sociaux.
Les précisions d'Hélène Terzian du service politique de RMC.
On en vient maintenant à l'information de la nuit. Le chef d'Al-Qaïda tué dans la nuit de samedi à dimanche par les Américains.
C'est Joe Biden en personne qui l'a annoncé. Le président américain qui estime que justice a été rendue. Emine al-Zawahiri se trouvait à Kaboul, la capitale afghane. Il a perdu la vie dans une frappe de drone menée par les États-Unis ce week-end. Et Bettina de Guglielmo, le chef d'Al-Qaïda, était introuvable depuis plus de 10 ans.
Ayman al-Zawahiri était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Les États-Unis promettaient même 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver. Il avait pris la tête de la nébuleuse djihadiste en mai 2011 après la mort d'Oussama Ben Laden. Zawahiri, 71 ans, né au Caire, dirigeait plus jeune son propre groupe militant. Il était le pionnier d'une forme de terrorisme qui privilégiait les attaques spectaculaires et les massacres aveugles de civils. Son groupe a fusionné avec Al-Qaïda dans les années 90. En 2001, il participe grandement à la planification des attentats du 11 septembre. Une fois à la tête d'Al-Qaïda, la puissance du groupe terroriste décline, les autres figures étant mortes ou cachées. De plus, son concurrent, l'État islamique, lui fait de l'ombre. Durant ces dernières années, Zawahiri était devenu de plus en plus distant. Il se cachait et se contentait d'écrire des livres et des essais et n'apparaissait que très rarement dans des vidéos. La dernière date de septembre 2021.
Et toujours à l'international, un mois de la situation en Ukraine avec le premier bateau chargé de céréales ukrainiennes qui a quitté le port d'Odessa hier, direction Tripoli au Liban après une escale prévue à Istanbul. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui reste prudent. Il estime qu'il est encore trop tôt pour se réjouir d'une potentielle reprise des exportations de céréales depuis l'Ukraine.
Un retour en France avec cette déconvenue pour plusieurs dizaines d'investisseurs en crypto-monnaie.
Tous auraient été victimes d'une arnaque. Un youtubeur connu sous le nom de CryptoGouv est accusé de leur avoir dérobé entre 3 et 4 millions d'euros. Mais l'internaute a tout bonnement disparu des écrans radars. Une enquête a justement été ouverte par le parquet de Paris, Maxime Lévy.
Pendant plusieurs mois, CryptoGouv fidélise les 4000 internautes qui le suivent sur YouTube ou Telegram, là où les personnes derrière le compte proposent d'investir à plusieurs dans les crypto-monnaies, avec la promesse de doubler l'investissement de départ. Entre 2 et 300 personnes vont se laisser tenter et investir jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sauf que voilà, CryptoGouv est tout simplement parti avec la caisse, 3 à 4 millions d'euros d'investissement dérobé. Et comme ultime humiliation, les internautes découvrent médusés une toute dernière vidéo sur le compte YouTube de CryptoGouv où sont révélés les détails de l'arnaque. Une escroquerie bien organisée derrière CryptoGouv, nous ne savons pas encore qui s'y cache. Sur YouTube ou Telegram, sous une barbe fournie, un visage rieur apparaissait pourtant. Un visage oui, mais tout droit sorti d'une banque d'images.
En bref, toujours au chapitre judiciaire, un deuxième homme soupçonné d'avoir participé à l'agression de 3 policiers en civil le 20 juillet dernier dans le quartier de la Guillotière à Lyon a été mis en examen et placé en détention provisoire hier. Et puis de l'économie, puisque Camailleux, placé en redressement judiciaire, le géant du prêt-à-porter était déjà en cessation de paiement. L'enseigne compte tout de même 538 magasins en France et plus de 2500 salariés.
Le sport, avec le troisième tour aller de qualification pour la Ligue des Champions pour l'AS Monaco.
Et c'est ce soir face au PSV Eindhoven. Objectif pour les Monégasques, rallier les barrages puis ensuite les phases de groupe. Mais l'ombre de l'échec de l'année dernière pour ce même objectif plane sur le club de la Principauté, Maxime Tillette.
Oui, Monaco avait facilement écarté le Sparta Prague, mais s'était fait éliminer en barrage par le Shakhtar Donetsk au bout des prolongations. Ce revers doit servir cette saison, selon le vice-capitaine Axel Dizazi.
On sait ce qu'on a loupé la saison dernière. On veut se racheter. Il faut se concentrer sur nous-mêmes et donner le maximum pour pouvoir passer en utilisant l'expérience qu'on a acquis la saison dernière.
Pas question de broyer du noir donc. L'entraîneur belge Philippe Clément est du même avis, mais est conscient que le PSV Eindhoven sera un adversaire coriace.
C'est une équipe avec grande force offensivement, grand collectif aussi, avec beaucoup de joueurs, avec beaucoup d'expérience. Mais nous avons toujours joué pour gagner des matchs. Nous n'avons jamais commencé pour jouer un match nul. Et je veux une équipe des gagnants, je veux une équipe qui fasse toujours tous pour gagner.
Gagner contre le PSV Monaco, c'est le faire. Wissam Ben Yedder et les siens se sont notamment imposés chez les Néerlandais la saison passée, 2-1 en Europa League.
AS Monaco PSV Eindhoven, c'est ce soir à 20h.
Les courses à Deauville à 18h aujourd'hui.
Et c'est, vous le savez, à suivre sur RMC Découverte. Voilà le pronostic de la Dream Team RMC. Son favori, c'est le numéro 5, Schooner Ridge. Son outsider, c'est le 11, Torpen. Deux numéros à retenir, donc le 5 et le 11.
Merci beaucoup Stéphane, à tout à l'heure avec Sébastien Krebs et toute l'équipe. Allez, on file à Marseille.
La story sport.
Pour la story sport avec Cédric Dandeville. Bonjour Cédric.
Salut Anaïs, salut à tous.
On parle de foot, évidemment, du championnat qui n'a pas encore commencé et c'est déjà la crise à l'OM. Les joueurs ont apparemment beaucoup de mal avec les méthodes du nouvel entraîneur Igor Tudor.
Oui, sur la Canebière, la saison estivale tourne au cauchemar. En 4 matchs de préparation, l'OM n'a pas gagné une seule fois. Bilan, 1 nul et 3 défaites. La dernière, dimanche, contre le Milan AC.
Les sifflets du public du Stade Vélodrome. L'OM aurait aimé que ce galop d'essai face au Milan soit rassurant. Avant la reprise de la Ligue 1, Igor Tudor aurait apprécié de voir ses joueurs envoyer des signaux positifs. Eh bien, ce n'est pas le cas.
Non, aucun signal positif pour le coach croate. Un revers 2-0 face à des Milanais largement supérieurs.
C'était un match assez difficile, dans la mesure où c'est une équipe championne d'Italie en titre. Donc forcément, on s'attendait à un match très difficile.
Alors ok, perdre contre Milan, ça n'a rien de déshonorant, mais avant ça, les supporters de l'OM ont aussi vu des défaites contre des adversaires beaucoup moins prestigieux.
Perdre 2-0 contre des petites équipes anglaises qui sont même pas en première ligue, c'est chaud, mais en fait, ça compte pas. Ils vont se reposer, ils vont revenir tout frais. Moi, je m'inquiète pas pour l'OM.
Il faut le temps qu'ils se mettent en route tous ensemble, qu'ils arrivent à jouer en coordination. Après, non, je pense que ça, l'osmose va bien se faire.
Bon, bah, y a quand même de l'optimiste. En revanche, l'osmose à l'OM, c'est pas pour tout de suite.
Non, là, on parle plutôt d'incompréhension, de tension, parfois même d'altercation. Le style cassant, les coups de gueule d'Igor Tudor créent des crispations dans le vestiaire. Les joueurs, à l'initiative de Dimitri Payet, ont même demandé un rendez-vous à leur président, Pablo Longoria.
Mais ça veut dire quoi, qu'il est déjà menacé, fragilisé, ce nouvel entraîneur?
Bah, en tout cas, son autorité semble déjà remise en cause, ce qui est paradoxal, hein, parce que début juillet, quand les dirigeants de l'OM ont choisi de nommer Tudor pour succéder à Sampaoli, c'était notamment pour cette poigne de fer tant recherchée par les clubs français.
C'est vrai qu'il y a une sorte d'harmonisation du football français.
Mais non, je pense que tu sais, la fameuse République.
Tout le monde veut l'autorité aujourd'hui partout.
Oui, c'est vrai, mais de demander une réunion là par des joueurs. Tu peux aussi dire, si t'es président, les gars, attendez, c'est pas vous qui décidez. Ça va se passer comme ça, et ceux qui adhèrent pas au projet, ben n'adhèrent pas au projet.
Ça, c'était Florian Gautreau, journaliste RMC dans l'Afterfoot hier. On verra si l'état-major marseillais reste droit dans ses bottes en défendant Tudor. En attendant, une réunion entre le Croate et ses joueurs est prévue aujourd'hui pour tenter de désamorcer la crise interne pour l'instant. Pour éviter qu'elle ne se propage, il faudra sans doute que la réception de Reims dimanche en Ligue 1 sonne l'heure du réveil.
Personnellement, j'espère que non. En tant que rémoise.
En
tant que marnaise, pour être plus précise.
Mais il y a des Marseillais qui vont vouloir une victoire.
Qui vont être très énervés, qui vont tout de suite m'écrire sur Direct Studio. Merci beaucoup, Cédric Dandeville, pour la Story Sport. On te retrouve demain. Et la Story Sport, c'est évidemment à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Je vous rappelle notre débat du jour. On parle piscine en pleine période de canicule. Qui n'est pas tenté par un petit plouf? Qui n'a pas envie de se faire construire une petite piscine dans son jardin? De plus en plus de Français en ont, plus de 3 millions. Mais est-ce que c'est vraiment responsable d'un point de vue écologique? Est-ce qu'il faut les interdire? On vous attend au 32-16 et sur Direct Studio. 5h42.
RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Mais il y a un autre sujet sur lequel on voulait donc absolument prendre le temps de s'arrêter ce matin, c'est l'abandon des animaux domestiques. Parce que ce matin, la SPA tire la sonnette d'alarme. Des milliers d'animaux sont encore abandonnés lors des vacances d'été et les refuges sont totalement, mais alors totalement saturés. Illustration dans un centre à Hermeray dans les Yvelines avec Alexandra Sirgan. Écoutez.
Les deux, là au milieu, c'est un abandon d'hier.
Deux petits chatons, mais pas seulement. Les abandons affluent cet été dans ce refuge, avec une dizaine recensés déjà ce week-end, à tel point que pour abandonner son animal, il faut désormais prendre rendez-vous, car la liste d'attente est longue.
On est saturé. Au niveau des chiens, c'est assez catastrophique.
Sabine Ledecker est l'une des agentes du centre.
Les chats, on est sur la même chose, et on a de plus en plus de nacs, nouveaux animaux de compagnie. Donc tout ce qui va être lapins, souris.
Certaines familles abandonnent, d'autres n'adoptent plus. Parmi les raisons évoquées par Hélène Gauthier, responsable du centre, les premières vraies vacances post-Covid.
Les gens peuvent cette année partir plus et les gens veulent profiter et malheureusement c'est les animaux qui en pâtissent.
S'ajoute à ça le coût de la vie qui augmente.
On a eu des abandons, notamment des gens qui avaient beaucoup d'animaux et qui effectivement nous disent que le chat ou le chien est tombé malade et que ça leur coûte beaucoup d'argent et qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer les frais sanitaires sur l'animal. Et les gens n'ont plus forcément les moyens et des gens qui pensaient adopter attendent peut-être un petit peu que ça aille mieux.
Un chien ou un chat en bonne santé coûte à peu près 1000 euros par an selon la SPA.
Et on doit en avoir conscience. Hein. Avant d'adopter, évidemment, la SPA accueille actuellement 9000 animaux dans ses refuges. Elle redoute le pire pour ce mois-ci. D'ailleurs, vous pouvez peut-être l'aider en accueillant un animal chez vous pendant quelques semaines pour que l'organisation puisse tenir le coup jusqu'à la rentrée. C'est ce que Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA, viendra nous demander à 6h40 sur RMC. Écoutez-le, hein. Il dit que la SPA va participer aux frais de nourriture et de vétérinaire. Interview à ne pas rater. Je rappelle que l'abandon d'un animal domestique est puni de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Le problème, c'est que les sanctions sont rarement appliquées. Vous réagissez au 32-16 sur Direct Studio également, si vous le voulez, ce matin. L'autre débat du jour, c'est évidemment la question des piscines, la multiplication des piscines sur le territoire. Solution rafraîchissante en période de canicule. Mais est-ce que ce n'est pas une aberration écologique? Je vous attends au 32-16 là aussi. Tiens, Ronan nous appelle. Bonjour Ronan.
Bonjour.
On dit bien Ronan ?
Oui, c'est bien Ronan, oui.
Ouais. Vous nous appelez de Saint-Étienne de Mermorte, en Loire-Atlantique.
Non, pas du tout. Moi, je suis de Machecoul, mais là, je suis à Guérande.
Ah d'accord. Bon, alors, vous êtes de Guérande, donc en Bretagne ?
Non, Loire-Atlantique.
En Loire-Atlantique. Et vous êtes donc pro-piscine, on va dire ça comme ça.
Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un plaisir avant tout d'avoir une piscine. Moi, je suis étudiant et quand je rentre chez mes parents le week-end, j'aime bien décompresser, aller dans la piscine, tout ça.
Ouais.
Et puis, je trouve que c'est, enfin, je trouve ça vraiment, enfin, je trouve ça bête en fait de vouloir interdire des piscines. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de raison. Enfin, le climat, c'est pas une vraie excuse.
Alors, si la consommation d'eau, c'est une réalité. Hein, c'est 15% de consommation d'eau en plus par an pour une famille de 4 personnes. C'est pas rien non plus.
Oui, mais dans ce cas-là, on pourrait dire la même chose des voitures. Je veux dire, on pourrait dire, ouais, il faudrait interdire les Ferrari parce que ça consomme beaucoup et puis avec la consommation, ça pollue. À un moment, je pense que c'est juste une question de... Enfin, certaines personnes, je pense que c'est de la jalousie ou d'autres personnes, ce sont des personnes qui sont en ville et qui n'ont pas ce plaisir.
Tout à l'heure, on avait Rémi, il nous dit, moi, même si j'ai les moyens, il n'en est pas question, quoi. Je trouve que l'heure n'est plus à s'acheter une piscine.
Oui, c'est ça, mais les personnes par exemple qui vivent dans des 40 mètres carrés et qui n'en ont pas les moyens, je suis désolé, ils n'ont pas à se prononcer contre les piscines en disant si je le pouvais, je le ferais. Demain, je donne, je sais pas, 1 milliard d'euros à n'importe quelle personne. Je pense que cette personne ne roulera pas avec une vieille Peugeot 206 et habitera dans un modeste appartement. À un moment, il faut voir la réalité en face et les gens qui ont les moyens de se faire plaisir ont le droit de se faire plaisir.
Vous qui habitez en Loire-Atlantique, vous avez d'autres solutions pour vous rafraîchir. Vous avez la mer, c'est ce que nous disait notamment Rémi tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites quand vous entendez ça?
Déjà que la plage et la piscine, c'est pas la même chose. C'est vraiment
en termes de plaisir. Donc on parle que de ça.
Non. Nonobstant le plaisir que la mer et enfin moi je veux dire comment dire, enfin c'est vraiment compliqué. Mais en fait on se baigne pas pour se rafraîchir. On se baigne pour le plaisir et même au-delà de ça, c'est agréable d'avoir cette piscine.
Pourquoi c'est important pour vous? Vous avez 21 ans et vous nous dites, moi j'ai 21 ans, mes parents ont une piscine et je sais que j'en aurai une plus tard.
Ouais, exactement. Ah oui, moi,
non mais c'est marrant de dire ça à 21 ans, c'est quasiment obligé quoi. Et ça va avec quoi, la jolie maison, le joli jardin.
Oui c'est ça, après c'est peut-être un fantasme de jeune étudiant, mais pour moi c'est quelque chose d'essentiel. J'en ai toujours eu une depuis tout petit, enfin non pas vraiment puisque j'ai habité aussi en appartement en ville avant, et c'est vrai qu'être arrivé en campagne, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Et notamment, le fait d'avoir une piscine, c'est vraiment très agréable. Et s'en priver pour des dites raisons climatiques, je trouve ça bête.
Est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est pas aussi un signe de réussite, aujourd'hui, d'avoir une piscine?
Non, je pense pas. Je pense pas, parce que la réussite, c'est quelque chose qui dépend de chaque personne. Pour moi, réussir ma vie, c'est réussir à avoir le métier que je veux à la fin. Peu importe ce que ça en coûte.
Merci beaucoup Ronan de nous avoir appelé ce matin au 32-16 et d'avoir réagi. Moi je juge personne et je vous appelle vraiment à réagir, à venir témoigner, que vous ayez une piscine ou pas, que vous soyez pro ou pas, on débat ce matin sur RMC. L'antenne est évidemment libre. À suivre sur RMC, l'été d'Angèle dans un instant. Salut Angèle.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Ce matin on va rendre hommage à Michel Berger.
Et oui, 30 ans déjà qui s'est éteint.
Et tu vas revenir sur sa carrière.
Une carrière évidemment immense. Musicale, une carrière immense, une carrière faite de beaucoup de femmes aussi, on verra.
De beaucoup de femmes. On a hâte. À tout de suite, Angèle.
L'été d'Angèle.
Bonjour Angèle.
Bonjour Anaïs. Bonjour.
Ce matin, on commémore un anniversaire musical, les 30 ans de la mort de Michel Berger.
Je m'en irai courir dans le paradis blanc.
Et oui, nous sommes le 2 août 1992. Michel Berger est dans sa maison à Ramatuelle et il est victime d'un infarctus. À 44 ans, il laisse derrière lui une carrière d'auteur, de compositeur et d'interprète parmi les plus importantes et prolifiques de l'histoire de la musique, qui débute dans les années 60 avec l'un de ses premiers succès, la chanson D'autres filles.
Oui, leurs yeux brillent. Mais tu sais bien.
Figure des années yéyé, il tombe amoureux passionnellement d'une certaine Véronique Sanson, pour qui il produit deux albums quelques années plus tard et qui inspirera au début des années 70 un autre de ses succès après leur rupture, l'album Cœur brisé.
Donne-moi du courage.
Car oui, Michel Berger, ce sont les succès, mais aussi les femmes. Les plus grandes artistes de l'époque chantent sa plume, comme Françoise Hardy, qui coécrit avec lui sa chanson « Message personnel ».
Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où
aller. Qui a aussi eu France Gall.
Évidemment, que dire de cet autre tube, celui qu'incarne France Gall dans les années 80. Il jouait du piano debout, vendu à 800 000 exemplaires, symbole du lien qui unit France Gall à Michel Berger.
Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout.
Jouait du piano debout. Qui deviendra son épouse, ce qui fera de l'un des couples les plus beaux et talentueux de la chanson française.
C'est pas faux ça, Angèle. C'est d'ailleurs leur fils qui fait perdurer le chanteur et compositeur.
Oui, Raphaël Amburger, il est producteur et travaille sur une nouvelle adaptation de Starmania, le fameux opéra rock que l'on doit à Michel Berger et à son acolyte Luc Plamondon. Un spectacle qui se jouera en novembre à la scène musicale près de Paris, puis en tournée dans toute la France dès février. Les plus grands fans de Michel Berger, eux, pourront d'ici là s'offrir un best-of à paraître en octobre.
Ah,
je sens que tu vas l'acheter.
Bah ouais, non mais c'est génial. Je vais me l'acheter à moi et puis je vais l'acheter à mes parents.
Voilà.
Parce que
c'est pour fan.
C'est ça, non mais c'est vrai. On en profite un petit peu pour ça.
Indémodable, Michel Berger.
Quelque chose qui fait mal. Je veux chanter pour ceux. On oublie peu à peu.
C'est laquelle ta préférée?
C'est trop dur comme question, je les aime toutes, je crois. C'est pas possible, je peux pas en choisir une seule.
Oh, non, mais Angèle, ne se mouille pas. Angèle, mouille-toi. Allez, elle vient de faire une chronique avec les plus belles chansons de Michel Berger. Elle n'est pas capable de dire quelle est sa petite préférée. On va demander à Sébastien Krebs, qui est déjà installé en plateau. Je suis sûre que lui, il peut trancher. Bonjour Sébastien.
Salut Anaïs, salut Angèle. Salut, bah, le paradis blanc.
Ouais. Évidemment,
évidemment.
J'aurais dit pareil, tout pareil.
J'espère qu'on va en écouter encore du Michel Berger tout à l'heure avec toi Angèle. C'est pas mal au réveil, et c'est pas mal. Ça fait du bien.
Et on va aussi, pardon, casser l'ambiance, hein, on va aussi beaucoup parler piscine ce matin, hein, Sébastien. Ouais. Ça réagit énormément au 32-16. Évidemment, les pros piscine sont vent debout, hein, ils viennent se défendre.
Ouais.